Bien. Voilà donc trois vertus que nous avons découvertes dans notre état, à ce qu'il semble. Mais quelle est celle qui achève pour l'état l'idée entière de la vertu? Il est évident que c'est la justice. Oui, Socrate. Maintenant, mon cher Glaucon, il nous faut faire une battue, comme des chasseurs, prenant bien nos mesures pour empêcher la justice de s'échapper par quelque issue et de disparaître à nos yeux. Il est clair qu'elle est ici quelque part. Regarde donc attentivement, et si tu l'aperçois, le premier, avertis-moi. Plutôt Dieu, Socrate. Mais non, ce sera encore beaucoup pour moi si je puis te suivre et apercevoir les choses à mesure que tu me les montreras. Invoquons donc les dieux et suis-moi. Je te suis, Socrate. Conduis-moi. L'endroit est couvert et d'un pénible accès. Il est obscur, et les recherches y sont difficiles. Avançons cependant. Avançons. Ah, mon cher Glaucon! M'écriai-je, après avoir regardé. Nous pourrions bien être sur sa trace, et j'espère que nous l'atteindrons. Heureuse nouvelle, reprit Glaucon. En vérité, nous sommes bien peu clairvoyants l'un et l'autre. Pourquoi donc, Socrate? Depuis longtemps, mon cher, et dès le commencement, ce que nous cherchons était à nos pieds et nous ne l'apercevions pas. Nous étions aussi dignes de risée que ceux qui cherchent quelquefois ce qu'ils ont entre les mains. Au lieu de regarder à nos pieds, nous portions nos regards bien loin. Aussi nous a-t-il échappé. Comment, dis-tu? Je dis que voilà longtemps que nous en parlons, sans comprendre nous-mêmes que nous en parlons. Tu me fais souffrir, Socrate, avec ce long préambule. Eh bien, écoute et juge toi-même. Ce que nous avons établi au commencement comme un devoir universel, lorsque nous jetions les fondements de l'État, c'est la justice, ce me semble, ou du moins quelque chose qui lui ressemble. Or, nous disions, et nous avons répété plus d'une fois, s'il t'en souvient, que chaque citoyen ne doit s'adonner qu'à un emploi dans l'État, celui pour lequel il a apporté en naissant le plus de dispositions. C'est ce que nous disions, oui. Mais nous avons entendu dire à une foule de personnes, et nous avons dit souvent nous-mêmes que la justice consiste à s'occuper de ses affaires sans se mêler en rien de celles des autres. Nous l'avons dit. Ainsi, mon cher ami, la justice pourrait bien consister à s'occuper de ses propres affaires. Sais-tu ce qui me porte à le croire? Non, dis-le, Socrate. Il me semble qu'après la tempérance, le courage et la prudence, ce qui nous reste à examiner dans l'État, c'est le principe même, qui produit ses vertus et qui, produites, les conserve tant qu'il demeure avec elles. Or, nous avons dit que, ces trois vertus étant découvertes, celle qui resterait à trouver serait la justice. Il faut bien, oui, que ce soit elle, Socrate. S'il fallait décider, ce qui contribuera le plus à la perfection de l'État, il serait difficile de dire si c'est l'accord des sentiments entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent, ou dans les guerriers, le maintien de l'opinion légitime sur ce qui est à craindre et sur ce qui ne l'est pas, ou la prudence et la vigilance dans ceux qui gouvernent, ou si enfin ce qui y contribue davantage est la pratique de cette vertu par laquelle femmes, enfants, hommes libres, esclaves, artisans, gouvernants et gouvernés se bornent, chacun à leur emploi, sans se mêler de celui des autres. Oui, certes, cela serait difficile à décider. Ainsi, à ce qu'il semble, tu fais concourir à la perfection de l'État avec la prudence, la tempérance et le courage, la vertu de ne s'occuper que de sa propre tâche. Sans contredit, Socrate. Or, cette vertu qui concourt avec les autres à la perfection de l'État, n'est-ce pas la justice, à ton avis? Oui. Examinons encore ceci sous un autre point de vue. Les magistrats seront-ils chargés de juger les procès? Bah, assurément. Et dans leur jugement, à quoi s'attacheront-ils de préférence, si ce n'est à empêcher que personne ne s'empare du bien d'autrui ou ne soit privé du sien? À rien d'autre, assurément. N'est-ce point parce que cela est juste? Oui, Socrate. C'est donc encore une preuve que la justice maintient à chacun la possession de ce qui lui appartient et l'exercice de son emploi. Cela est certain, Socrate. Vois alors si tu es du même avis que moi. Que le charpentier s'ingère d'exercer le métier du cordonnier, ou le cordonnier celui du charpentier, qu'ils échangent leurs outils, ou le salaire qu'ils reçoivent, ou que le même homme fasse deux métiers à la fois, avec tous les changements qui s'ensuivent. Crois-tu que ce désordre causa un grand mal à l'État? Pas un très grand. Mais si celui que la nature a destiné à être artisan ou mercenaire, enorgueilli de ses richesses, de son crédit, de sa force ou de quelque autre avantage semblable, entreprend de s'élever au rang des guerriers, ou le guerrier à celui des magistrats, sans en être digne, s'il faisait échange et des instruments de leurs emplois, et des avantages qui y sont attachés. Ou si le même homme entreprenait d'exercer à la fois ses divers emplois, alors tu croiras sans doute avec moi qu'un tel changement, une telle confusion de rôle, serait la ruine de l'État. Oui, infailliblement, Socrate. Ainsi donc, réunir ces diverses fonctions ou passer de l'une à l'autre, c'est ce qui peut arriver de plus funeste à l'État et ce qu'on peut très bien appeler un véritable crime. Certainement, Socrate. Or, le plus grand crime envers l'État, ne l'appellerais-tu pas injustice? Oui, Socrate. Voilà donc ce que c'est que l'injustice. Revenons maintenant. Se borner aux fonctions qui nous sont propres, à celles de mercenaires, ou de guerriers, ou de magistrats. N'est-ce pas le contraire de ce qu'on vient de dire? C'est-à-dire la justice, et ce qui fait que l'État est juste. Il me semble, Socrate, qu'il ne peut pas en être autrement. Ne l'affirmons point encore avec trop de confiance. Nous l'affirmerons si, appliqué à chaque homme en particulier, l'idée de la justice que nous venons d'exposer, nous paraît encore celle de la justice, car que pourrions-nous exiger de plus? Dans le cas contraire, il faudra bien tourner ailleurs nos recherches. Maintenant, épuisons celle où nous nous sommes engagés dans cette pensée qu'il nous serait plus aisé de reconnaître quelle est la nature de la justice dans l'homme, si nous essayions d'abord de la contempler dans un objet plus grand qui la contiendrait. Et il nous a semblé que cet objet était un État. Et nous l'avons formé aussi parfait qu'il nous a été possible, parce que nous savions bien que la justice se trouverait nécessairement dans un état parfait. Ce que nous y avons découvert, transportons-le dans l'individu. Si tout se rapporte de part et d'autre, la chose ira bien. S'il y a quelques différences, nous reviendrons à l'état pour examiner encore. Et peut-être, en comparant l'homme et l'état, et en les frottant, pour ainsi dire, l'un contre l'autre, nous en ferons jaillir la justice comme le feu du sein de matières inflammables. Et à l'éclat qu'elle jettera, nous la reconnaîtrons d'une manière infaillible. Cette marche est convenable. Il faut la suivre, Socrate. Lorsqu'on dit de deux choses, l'une plus grande, l'autre plus petite, qu'elles sont la même chose, sont-elles dissemblables par ce qui fait dire d'elles qu'elles sont une même chose, ou sont-elles semblables par là? Elles sont semblables, Socrate. Ainsi, l'homme juste, en tant que juste, ne différera en rien de l'état juste. Il lui sera semblable. Oui, Socrate. Or, l'état nous a paru juste parce que chacun des trois ordres de citoyens qui le composent remplit les fonctions qui lui sont propres, est tempérant, courageux, prudent, par certaines qualités et dispositions de ces trois ordres. Il est vrai. Si donc, mon ami, nous trouvons que l'homme a, dans l'âme, trois parties correspondantes à ces trois ordres de l'État, en supposant qu'elles aient les mêmes qualités, nous leur donnerons, à bon droit, les mêmes noms. Cela est de toute nécessité, Socrate.